et intermédiaire milliardaire très influent? Décor de polar pour campagne présidentielle?
Pour assister à l'émission, rendez-vous dimanche à 11h30 dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter, la différence.
Daniel Mermel, là-bas, si j'y suis, ça commence toujours par le répondeur.
Daniel, bonjour. Jean-Pierre de Brest. Félicitations pour cette émission qui passe aujourd'hui là sur les sourds aveugles. Ça remet un petit peu de relativité dans nos petites vies avec nos petits bobos du quotidien là. Quel exemple, quel exploit. Et puis, merci à toi et à toute l'équipe, parce que nous sommes tout seuls sans les autres. Et donc, c'est toute ton équipe et à toi-même. Merci pour toutes ces émissions. Ça fait du bien et ça nous remet un petit peu les idées à l'endroit. Merci pour tout. À bientôt.
Bonjour, c'est Philippe. Je viens d'écouter la deuxième émission sur la surnécessité. Je suis aveugle. Je suis prof en collège et souvent mes élèves me demandent me poser des questions sur les aveugles, et des fois ils me demandent si c'est mieux d'être sourd ou aveugle. Alors j'essaie de leur trouver les avantages à être l'un ou l'autre. Ils me disent, et quand on est sourd et aveugle, comment c'est? Alors je leur dis, c'est deux tares qu'ils cumulent, ça doit être dur. Alors j'ai ramené Hélène Keller, et puis à ce qu'on a entendu aujourd'hui, Annie, son mari, c'est là qu'on se dit que ça vaut le coup de vivre quand même pour ce que ces personnes ont pu apporter aux autres. Je pense aussi à Louis Braille, hein, qui de son malheur a fait le bonheur de tous les aveugles en leur permettant d'avoir une meilleure place dans le monde. Voilà. Allez, bon vent à l'émission. Salut.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe. Là, je vous téléphone parce que j'ai appris que Frédéric Lordon passait vendredi sur là-bas. Et j'aurais voulu poser une petite question. Là, j'ai entendu Édouard Leclerc ce matin qui sur BFM là, qui disait que pour augmenter les salaires, il faudrait augmenter la TVA. Ce qui serait une manière de taxer les produits étrangers aussi, qui sont consommés en France, et baisser la part salariale des charges sur les salaires. Donc j'aurais voulu savoir ce que Frédéric Lordon en pensait. Allez, à plus.
La crise est finie, oh, la crise est finie, oh, nous nageons dans le bonheur.
Et vive la mondialisation heureuse à la fête de l'humanité, vendredi à 15h au parc de la Courneuve, 93, là-bas si j'y suis, avec Frédéric Lordon, en direct et en public depuis le studio Radio France, pour en finir avec la crise.
La crise est finie, oh, la crise est finie, oh, nous nageons dans le bonheur.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. J'étais ravi hier d'apprendre qu'un économiste allait passer à l'antenne vendredi pour donner des explications. J'ai une question qui, depuis un moment, me trotte en tête et je n'arrive pas à trouver la réponse ou de réponse sensée. Je voudrais savoir pourquoi nos hommes politiques, à un moment donné, ont jugé préférable pour le pays et pour les citoyens d'emprunter de l'argent auprès des banquiers en créant de la dette, de l'argent qui est payant, plutôt que de créer eux-mêmes de la monnaie, monnaie qui somme toute n'est plus en or ou en argent, donc est plutôt gratuite, et qui retombe directement dans sa poche sous forme d'impôt lorsqu'il est redistribué. Voilà, je m'appelle Nicolas, je suis un indigné arlésien, merci d'avance, au revoir.
Salut, c'est Philippe de Haute-Savoie. Et voilà, j'ai ouvert mon poste et puis j'ai appris que Nicolas Sarkozy allait secrètement demain en surprise au débouté comme ça, en Libye, se faire accueillir par les Libyens qui l'attendent et tout. Bah, dis donc, visiblement, ça devient de plus en plus dur d'organiser des déplacements en province avec des sympathisants OMP pour l'acclamer à la place de la population, parce que si là, il est obligé de partir en Libye, la vache ! Ah, les meetings électoraux, ça promet, ça va lui coûter cher, hein. Pourquoi pas, la Libye, les Libyens, hein, eux, ils sont pas au courant. Ils savent pas trop ce qu'il a magouillé avec Kadhafi, hein, il y a à peu près, non, hein, pas moins. Ciao.
Une rapide poignée de main et ses quelques mots.
France 24, 24 juin 2007.
Nicolas Sarkozy assume. Le colonel Kadhafi rejoindra bien Paris lundi pour 6 jours de visite officielle. Une visite qui suscite les critiques, mais que défend le président français.
J'aimerais qu'on m'explique. Il a sa personnalité, son tempérament. C'est pas moi qui vais les juger.
Kadhafi est donc redevenu fréquentable. Les deux chefs d'État se rencontreront à 2 reprises à Paris et Kadhafi devrait signer plusieurs gros contrats avec des entreprises françaises, notamment d'armement.
Salut Daniel et salut les AMG, j'écoute M. Sarkozy en direct de Libye là, et ça me fait rire. Parce qu'il était l'ami de Kadhafi, et maintenant il est l'ennemi de Kadhafi. J'ai du mal à suivre. C'est un vrai petit caméléon. J'espère qu'il est honnête avec les Français et les Françaises. J'ai un doute. Allez, bye bye.
Voilà le petit bruit que vous avez entendu à la fin de l'élément sonore, de l'archive sonore. C'est un bruit de casserole, voilà. On vous fera ça maintenant, les casseroles. Voilà. Eh bien, demain, oui, en effet, nous sommes à la fête de l'humanité à 15h, en direct et en public. La fête de l'UMAS, c'est à La Courneuve, dans le parc de La Courneuve. Et nous serons, en effet, avec Frédéric Lordon, l'économiste bien connu de la Terre entière, mais notamment des auditeurs de là-bas, si j'y suis. Et sans qu'on vous demande rien du tout, vous avez commencé à lui poser des questions. Et vous pourrez venir demain lui en poser beaucoup d'autres. C'est notre idée, c'est que, voilà, Frédéric Lordon répond à vos questions en public demain. Donc, à la fête de l'UMA, c'est à 15h. Pour vous y rendre, vous regardez sur, sur France Inter, tout ça, ils ont très bien préparé le fléchage. Vous retrouvez ça très facilement, ou bien sur le site de la fête de l'humanité, c'est très facile. Ça, c'est à 15h. Et puis à 18h, je serai moi-même en personne, avec sans doute des gens de l'équipe de là-bas, si j'y suis, au stand des Mutins de Pangée, qui est au forum des associations, face au village du Livre, et le plan, c'est G5. À 18h, rendez-vous donc avec les Mutins de Pangée et on vous présentera la bande-annonce du film sur lequel nous travaillons d'après des entretiens dans Là-bas si j'y suis avec l'historien américain Howard Zinn. Ça, c'est donc demain. Aujourd'hui, retour sur la piraterie. Ah ! Pirate, on dit le mot pirate, et aussitôt, il y a deux catégories. Il y a ceux qui voient l'aventure, les histoires hautes, en couleur, qui nous fascinent dès l'enfance, dès la jeunesse, les premiers livres que nous lisons de bande dessinée ou autres, la piraterie. C'est vrai que c'est fascinant, évidemment. Et puis, il y a une autre vision, qui est celle, le pirate égale le hors-la-loi, le hors-la-loi égale le rebelle, et le rebelle égale le révolté. Donc ainsi, on passe du hors-la-loi au révolté par un certain cheminement qui plaît à beaucoup, qui n'a pas toujours été si romanesque, si utopique que ça. Il y a effectivement, dans l'histoire, des magnifiques histoires de bandits au grand cœur et de pirates qui aussi aurait été fait preuve de grand cœur, de sens politique, de sens de la solidarité. Et l'un des mythes, c'est celui de Libertalia. Oui, oui, oui. Vous le savez ou vous ne le savez pas, et bien vous allez le découvrir ou le redécouvrir avec nous dans ce reportage, ce sujet d'Antoine Chao. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, j'appelle pour les d'urgence parce que c'est très, très possible qu'il y ait une confrontation avec les indigènes de l'Amazonie et les gens qui sont les paysans aussi qui s'occupent des champs de coca en Bolivie. J'ai toutes les informations que je peux vous donner directement comme représentant des indigènes qui se battent pour arrêter le souhait du gouvernement bolivien de construire une autoroute au milieu du parc Isidoro Sécouré. C'est très urgent, s'il vous plaît. Merci pour nous aider. God bless you.
Bonjour, c'est une apicultrice de Rhône-Alpes. Voilà, je suis au Jardin des Plantes avec la Fédération française des apiculteurs professionnels de France. Et nous sommes là pour manifester contre l'autorisation du cruiseur sur colza qui vient d'être donné par le ministre de l'Agriculture. Donc nous sommes là pour dire non à l'industrie chimique qui tue nos abeilles depuis des années. et nous refusons de voir une grande partie de notre territoire devenir une zone interdite pour les abeilles. Voilà, nous voulons simplement avoir le droit de vivre et de travailler dans un environnement sain et riche en ressources sur tout notre territoire. Merci Daniel, au revoir.
Salut Daniel et tous les AMG, ici Corinne du repère de la base J'y suis de Caen, dans le Calvados. Je vous informe que ce jour, jeudi 15 septembre à 20h30, nous faisons une réunion pour vous informer sur ce qu'est une ville en transition, ce que nous pouvons faire localement pour changer, pour échanger, pour discuter, ce que l'on peut construire avant... Une grosse réunion le 28 septembre avec Carol Withy de la ville de Totnes en Grande-Bretagne. Donc si vous souhaitez savoir déjà ce que veut dire une ville en transition, ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons changer les choses localement, simplement en nous mettant en réseau, vous venez aux news le 15 septembre à 20h30. C'est au 15 boulevard Leroy à Caen. Je compte sur vous.
Ce matin sur France Culture, avant les infos de 8h, on apprenait grâce à Marc Roche, qui a écrit un bouquin « Le capitalisme d'État », on apprenait donc que LVMH, Louis Vuitton-Mouette-Hennessy, avait fait une OPA, une offre publique d'achat, sur Hermès. Ça, c'est pas une surprise, mais ce qu'il nous apprend, c'est que les fonds avaient transité par un paradis fiscal situé à Panama, qui a une réputation assez sulfureuse pour héberger des fonds dont on s'imagine un peu la provenance au pays des narcotrafiquants. Donc voilà, le luxe se baigne dans le stupre et l'argent facile et pas clair. On apprend des choses sur France Culture.
Oui, peuple libyen, blablabla, 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 blablabla. Éric de Rouen.
Salut, c'est Daniel Mermet. Avec Antoine Chaos, c'est là-bas si j'y suis. Utopie pirate. Flight number 2. Arriving from... Noir, une tête de mort dans les reflets d'une flaque de sang. 6 et 3 font 9, 6 et 3 font 9, 6 et 3 font 9. Voilà le capitaine Flint avec sa jambe de bois sur le gaillard d'avant. 6 et 3 font 9, 6 et 3 font 9 et un perroquet et deux pistolets. Et une barbe qui pue le rhum et le hareng. Et à l'oreille, un anneau d'or. J'oublie la pipe, j'oublie la poudre, j'oublie les grosses filles des tavernes aux tétons si blancs et le coffre du mort, avec l'or et les diamants. Et la vieille montre espagnole qu'on enterre la nuit sous les cactus de l'île de la Tortue. Et tout ça... Pour ça, non, pas vraiment. Le trésor, on le retrouve jamais, car on est mort avant. On fera pas de vieux os sur terre, et encore moins sur mer. Et c'est tant mieux. Comme dit la chanson, mieux vaut un jour de lion qu'un siècle de mouton. Voilà, le pirate qui arrive. 6 et 3 font 9. 6 et 3 font 9. Ces hommes, depuis longtemps, éternels, révoltés, aventuriers sans scrupules, gueux assoiffés de richesses, ou précurseurs audacieux de sociétés égalitaires, ces pirates ont traversé les siècles sans cesser de fasciner et d'inspirer, bien sûr, d'inspirer d'abord les enfants et les anciens enfants. Les pirates nous replongent dans nos rêves adolescents de révolte et de rupture. Quand vous mordez la nuit, la main qui vous nourrit et partez à l'aventure sous les couvertures sans avoir oublié d'écrire avant dans votre petit journal « L'ordre, c'est la vertu des médiocres ». C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. Utopie pirate.
Alors nous voilà en face du Musée National de la Marine à Paris, place du Trocadéro. 300 ans d'histoire maritime. Alors la question, c'est celle du bon usage du sabre d'abordage. De vérifier donc la thèse d'un livre qui est sorti il y a quelques temps déjà aux éditions Aden et qui s'appelle « Bastion pirate, une histoire libertaire de la piraterie ». Qui présente les pirates comme des équipages composés des premiers rebelles prolétariens, s'opposant au mercantilisme de la marine de l'époque, qui ne faisait que participer au pillage du nouveau continent, découvert un siècle plus tôt, en proposant la répartition des richesses, en quelque sorte, dans cette période du premier essor du capitalisme.
Voilà, bonjour, monsieur.
Bonjour, madame. Je prépare un travail sur la piraterie, donc je voulais savoir si j'allais trouver de l'information ici. Il n'y a rien du tout sur les pirates ? Il n'y a aucune documentation
sur la piraterie ? Il y a eu une expo sur les pirates, mais il n'y a rien de, sur les pirates. Non.
D'accord.
Allez à l'information, vous dire en fait.
Merci. Bonjour. Alors, sur les pirates, vous auriez quoi ?
Faut que je regarde ici.
Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de salle qui était dédiée à...
Non.
Est-ce que vous auriez ce livre, la Bastion pirate ?
C'est quelle édition, ça ?
Aden. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le sous-titre, là, une histoire libertaire de la piraterie. Vous pensez que les pirates étaient des libertaires ou c'était des brigands uniquement ?
Libertaires, ils étaient quand même assez indépendants, c'est sûr. Plus que les corsaires, c'est sûr. Les corsaires étaient totalement dépendants, mais les pirates étaient indépendants.
D'accord.
Donc, mais non, celui-ci, il n'a pas.
D'accord.
Est-ce qu'ils avaient une tendance libertaire ? Peut-être pour certains, probablement. Notre position à la base, c'est de dire une chose très simple. Hein. Ici, on a toujours dépendu de l'administration royale, puis nationale, puis tout ce que vous voulez. Les pirates, c'est un petit peu quelque chose d'extérieur. Enfin, vous voyez, les pirates, c'est pas du tout... Voilà. Donc, ici, on a des sources sur la marine française, sur les corsaires, parce qu'eux avaient des lettres de marque. Donc, ils faisaient partie du système. Les pirates, c'est hors système.
Eh oui, on a cru bien faire avec Antoine. On dit, bon tiens, c'est intéressant, et les pirates quand même. Tout le monde sait qui sont les pirates. Les enfants, les vieux, les jeunes, tout le monde, on a tous un pirate dans la tête. Bon, ben pour faire une émission là-dessus, pour en savoir un peu plus, ben allons au musée de la marine, le magnifique musée de la marine. Oui, mais le musée de la marine dépend du ministère de la Défense. Et le ministère de la Défense, c'est se défendre justement contre les pirates. Même s'il n'y a plus beaucoup de pirates des mers dans nos eaux à nous, la différence est toujours marquée. Et ce sont bel et bien, aux yeux d'officiels, bel et bien des brigands. Et les valeurs libertaires. Non, c'est pas par ici qu'on va apprendre grand-chose. Quoique, essayons.
Deux jours plus tard, musée de la marine, porte de service, j'ai rendez-vous avec la conservatrice adjointe qui a été commissaire de l'exposition sur les pirates. Des histoires qui font l'histoire. Savez-vous comment l'obélisque de Louxor est arrivé place de la Concorde? Comment fabriquait-on un cordage ou installait-on un mât au XVIIIe siècle? Savez-vous que le bateau à vapeur et l'hélice sont des inventions françaises? Combien d'hommes travaillent sur le porte-avions Charles de Gaulle? Les réponses, venez les découvrir à travers plus de 1000 objets extraordinaires, maquettes de navires et de machines, souvenirs de marins, peintures, figures de proue, armes, instruments de navigation. Tous ces objets de collection ont une histoire.
Bonjour.
J'étais en train de regarder le programme, alors je vois que vous répondez à plein de questions.
C'est parfait.
Hein, donc voilà, donc je vais vous poser la mienne. Après. Non, justement, là je vois qu'il n'y a pas la question qu'on se pose sur le bon usage du sabre d'abordage. Quoi.
Dites cuillère à peau.
Eh ben,
oui, ça vient de là. Beaucoup de cuillère à peau, c'est un terme qui vient de la marine, puisque la cuillère à peau en question, c'était le nom qu'on donnait au sabre d'abordage. Donc lorsqu'un abordage se faisait en deux coups de cuillère à peau, c'était en deux coups de sabre, donc extrêmement rapidement, et qu'il était mené à bien évidemment.
L'abordage fait partie de l'histoire de la marine.
Marine militaire, oui, bien sûr, et puis la piraterie, bien sûr aussi.
D'accord, mais pourtant, il n'y a aucune salle qui est destinée à la piraterie dans ce musée.
Alors, on avait fait une grosse exposition sur le sujet il y a une huitaine d'années maintenant, parce que justement, ça n'était pas un sujet qui était abordé dans nos collections. La présentation permanente des œuvres était plutôt basée sur des choses, je dirais, plus politiquement correctes, donc en particulier donc, l'évolution de la marine militaire, l'évolution de la marine marchande, voilà, des choses un petit peu plus nettes, avec des contours un petit peu plus précis que sont ceux de la piraterie.
D'accord.
C'est ces aspects-là qu'on a cherché à développer. Le musée de la marine, on dépend du ministère de la Défense. Il y a des explications à la présentation peut-être d'un certain nombre de choses et la façon dont c'est présenté ici.
Il y en a qui deviennent sergents ou marchands de peinture. Il y en a qui vendent des cure-dents ou des grosses voitures. Il y en a qui passent le week-end enfermés comme des patates. Mais moi, quand je serai grande, je serai pirate. Les pirates ne payent pas d'impôts et se font des tatouages sur les biscottos. Les pirates vivent au jour le jour, ça les empêche pas de se faire du velours. Les pirates ont des chapeaux noirs et versent le fric à plein arrosoir. Les pirates aiment la bagarre et règlent leurs comptes sur le coin d'un bar. Ils montent à Paris dans les boîtes de nuit, ramassent les pucelles pour rénover le cheptel, payent les argousins pour protéger le turbin, font bosser les gonzesses et leurs bottes les fesses. Les pirates sont tous d'Ajaccio et n'ont peur de rien, sinon du boulot. Les pirates qui ont tout ramassé font de la politique et deviennent députés. Faut les pendre en haut du grand mât. Quel est le pirate qui refuserait ça?
Donc, je suis Annie Madévache, je suis conservateur adjoint au Musée national de la marine, l'un des commissaires de l'exposition pirate qui s'était tenue au musée en 2002.
Alors, est-ce qu'on peut d'abord faire un petit lexique sur ce qu'étaient les corsaires et ce qu'étaient les pirates?
Alors, les corsaires...
Les flibustiers.
Ah oui, parce qu'il y a tout un... Il y a les boucaniers, il y a les flibustiers, il y a les pirates, les corsaires, et tout ça, ce sont des personnes qui ont des facettes différentes les unes des autres. Les corsaires, ce sont, je dirais, les plus droits, peut-être. Ce sont ceux qui ont, en tous les cas, une autorisation de la part du roi de s'attaquer pendant une période donnée à une nation particulière. Ils ont en leur possession ce qu'on appelle une lettre de marque délivrée par l'État. Cette lettre de marque stipule précisément quelle est la nation qu'on a le droit d'attaquer et pendant un conflit, quel qu'il soit. Les pirates sont des gens sans foi ni loi, qui ne font vraiment que ce qui leur plaît et qui n'ont de compte à rendre à personne. La piraterie, c'est un phénomène qui a existé de tout temps, qui malheureusement existe encore. Tandis que ce qu'on appelle vraiment les flibustiers, c'est un terme qui s'applique géographiquement et chronologiquement à un espace bien précis, c'est-à-dire, encore une fois, la zone de la mer des Antilles, vraiment courant 17e et jusqu'au milieu du 18e siècle. L'essentiel des équipages qui formaient les équipages pirates provenaient des marins en rupture de banc avec la marine britannique, et beaucoup pour la marine britannique, française un petit peu dans une moindre part, mais les conditions de vie à bord des navires de guerre britanniques étaient tellement dures que bien souvent ils préféraient essayer de s'en abstraire et donc de rejoindre les pirates et les forbans. Et les boucaniers, c'était le terme vient du boucan, le boucan étant le foyer sur lequel on faisait revenir boucaner la viande. Et donc, par extension, les gens qui effectuaient ce type de tâches étaient les boucaniers. Donc c'était plutôt le versant terrestre que le versant maritime des personnes qui vivaient à cette époque-là dans les îles.
Nous sommes des humains sans patrie. Et hors la loi dans notre pays et des indésirables partout ailleurs. De désespoir, il nous faut tenter notre fortune en mer. Nous nous unissons donc fraternellement pour devenir ensemble des flibustiers et accomplir des actes de piraterie en haute mer. Étant pourchassés, nous pourchasserons.
Libertalia, en fait, c'est une terre qui est soi-disant créée par des pirates au début du XVIIIe siècle. Et en fait, le récit vient d'un certain capitaine Johnson, dont l'identité a été révélée il y a assez peu de temps par les universitaires. Ça n'est autre que Monsieur Defoe, qui est à l'origine de Robinson Crusoe. En fait, il raconte une histoire qui s'avère être une sorte de conte politique et que, très certainement pour des raisons liées à la peu de liberté de presse qu'il y avait à l'époque, il va situer dans un cadre pirate et dans l'océan Indien, donc puisque ça se situerait donc à Madagascar, au nord de Madagascar. Malheureusement pour nous, je dirais aujourd'hui, il s'avère que c'est une utopie, c'est-à-dire que c'est vraiment un récit de fiction totale, ce qu'aurait pu être une vie un petit peu rêvé de pirates qui décident d'instaurer un gouvernement de type républicain. C'est assez précurseur, le bouquin est paru en 1724. Donc c'est très, très tôt par rapport à justement toutes ces utopies politiques.
Alors vous dites que c'est avéré que c'est une fiction ?
Oui, parce que justement, en fait, il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été faites sur place. Rien n'a été trouvé sur place pour montrer qu'il y ait eu, à un moment ou à un autre, une communauté qui se soit installée là. La tradition orale locale n'a absolument gardé aucune trace non plus de la présence potentielle d'un groupe qui se serait installé dans cette zone-là. Donc vraiment, a priori, c'est purement un conte politique qui est sorti de l'esprit de ce Britannique du XVIIIe.
Donc le mythe libertaire des pirates s'effondre, là, aujourd'hui, au musée de la Marine.
Je suis navrée.
Non, vous m'aviez laissé espérer, il y a deux jours, que c'était une réalité, que ça avait été une réalité.
Non, malheureusement, j'ai revu ma copie entre-temps, et non, ça n'est pas le cas.
Mais ça se base quand même sur des pratiques. Est-ce qu'il y avait des pratiques comme ça de fraternité ou de coopération au sein des confréries pirates? Ça a existé ou pas? Ou ça fait partie aussi de la légende?
Alors, il y a des éléments malgré tout.
Partage du butin, etc.
Alors justement, il y a des règles qui sont établies, dont on a parfois la trace d'ailleurs dans des récits. On a quand même déjà une forme de répartition des richesses qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît dans la société classique terrestre de la même époque. De même qu'un certain nombre de règles ont été établies pour dédommager, si on perd une main, si on perd un bras, si on perd une jambe, si on perd les deux jambes, pour être dédommagé. C'est l'enceinte de notre sécurité sociale, hein. C'est clairement établi comme ça, en fonction de la... du problème physique rencontré. On est dédommagé... sur une part de butin des autres.
Avez-vous envie de servir le roi? Vous entendez ça, les gars? Le roi voudrait qu'on fasse partie de sa flotte.
Attachez-le à la gueule d'un canon, j'enverrai ses tripes engraisser les champs de canne à sucre.
Vous perdez votre temps, prenez-le.
Attendez.
Le pendre, ça serait trop noble pour lui. Vous nagez, colonel chéri? On va vous rafraîchir les idées en vous envoyant prendre un bain froid. Allez, Oust, par-dessus bord!
Mais quand même, c'est un monde assez poreux, quoi, sur ce commerce du 16e, 17e siècle. On est en train de piller quand même le nouveau continent. La pratique pirate s'inscrit quand même dans un libéralisme là qui est en plein développement.
Vous allez peut-être un petit peu loin quand même, parce que ça n'en reste pas moins du pillage, hein, même si effectivement les cargaisons sont elles-mêmes pillées au préalable auprès des populations. Je pense qu'entre-temps, le Hollywood est passé par là. On a une version et une vision aujourd'hui qui est très brillante, un peu... comment dire, un peu... Enfin, c'est le versant aventureux, c'est le versant un peu Robin des Bois qu'on présente. Je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste valeur. Ce sont des gens qui ont simplement envie de prendre aux uns pour garder pour eux et pas du tout pour redistribuer derrière. Il y a un cas précis où c'est Edward Teach, par exemple, célèbre pirate en son temps, qui a carrément abandonné son équipage sur une île déserte pour s'approprier la totalité du butin. Donc même la description très vertueuse que je faisais tout à l'heure de la répartition du butin, elle était même parfois battue en brèche par les pirates eux-mêmes. Donc, bon, encore une fois, oublions un petit peu les productions hollywoodiennes qui ont une façon de présenter les choses, qui s'explique d'ailleurs. Dans l'histoire américaine, les pirates ont été parfois des pourvoyeurs très intéressants pour les colonies américaines qui étaient déjà un petit peu en butte au commerce et aux règles très strictes que leur appliquaient les Britanniques avec des taxes extrêmement sévères. Et les colons américains étaient parfois ravis et ouvraient vraiment leurs ports aux pirates de façon à ce que ceux-ci viennent écouler leurs rapines à bas coût, contrairement à ce que les Américains auraient pu obtenir auprès des Britanniques, taxés. Donc je dirais qu'il y a une façon de la part des Américains de percevoir la piraterie, la flibuste du 18e, qui est sans doute pas la même que celle que l'on peut percevoir peut-être nous depuis la vieille Europe, parce qu'il y a ce rapport quand même, je dirais, d'intérêt commercial, qui est avéré, encore une fois, que nous n'avons peut-être pas perçu, nous, ici. Donc, on n'a peut-être pas ce penchant, peut-être, à voir les choses de façon un petit peu plus rose qu'elles ne l'étaient dans la réalité. C'était très rouge sang, quand même, ce qui se passait à bord.
Salle d'un banque, le vol encre noir, les femmes et les enfants debout.
Larguez les amarres.
Marin des mers du Nord, j'timi Moussaillon. Une nouvelle page doit s'écrire, on met les voiles pour de bon. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international des pirates sera le genre humain. Gardons le cap coûte que coûte, même en pleine tempête. Bandit, contre l'ordre établi, relevons la tête.
Encore un refrain pour afficher nos couleurs. Encore une douille pour défier nos censeurs. Encore un pavé dans la tronche de l'oppresseur. Encore une grève pour défendre nos valeurs. Qui a cru qu'on était tous anesthésiés, qui pensaient qu'on avait tous démissionné, que Babylone nous avait ensorcelés, qu'il suffisait désormais de nous dire qu'on pensait. De leur mère va leur dire que le map est en guerre, va leur dire qu'on a capté leur petit manège, qu'on a assez de plastique pour faire sauter leurs privilèges. On peut se les faire si on reste bien groupir, bien soudés, on fera chuter leur empire. Ils ont les lois, les matraques et les tasers, on a la foi et de la rage dans les viscères.
Écumons les scènes, bougons de ville en ville, constituons notre armée de bras cassés, d'affreux, d'immondes. Sous l'œil de la lune rousse de toutes parts, les renforts arrivent. Repartons à l'assaut des navires des grands de ce monde. Ces vaisseaux assassins ce soir pour sûr connaîtront un triste sort sous l'assaut de nos sabres. Captain Radio Crochet monte le son, donne-nous du cœur à l'ouvrage. Pompier bon oeil, on part à l'abordage.
Mazalina, 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 Mazalina,
Eugène ?
Oui.
C'est Antoine.
Ah, Antoine.
Tu vas bien ?
On a ramate, comme on dit ici. Ça veut dire ça va bien.
Ouais, écoute, ça va bien, sauf que j'ai une très mauvaise nouvelle.
Ah bon ?
On me soutient que l'aventure, la belle aventure de Libertalia n'a pas eu lieu.
Non, non, moi je crois que ça a eu lieu, ouais. Ouais, ouais. Je crois que ça a eu lieu, mais ça m'étonne pas qu'il y ait des détracteurs et celui qui soutient ça te semble crédible, c'est quoi ?
C'est le musée de la Marine qui dépend de la Défense nationale.
Ah, bah évidemment, tu penses bien que les libertaires, ça les intéresse pas du tout.
Ah ouais, tu crois que c'est ça ?
Oh bah, bien sûr, parce que c'est quand même... Il y a les noms, il y a le nom du jésuite qui était avec lui, il y a le nom du mec, il y a... tout c'est très connu, le nom de ces bateaux, les prises qu'ils ont réalisées, ces gens-là. Enfin, bon, ou alors, on s'est tous fait berner, quoi. Hein. Mais moi, je crois pas, quand même. Hein. Je crois pas, hein. Je crois que c'est une belle histoire, quoi.
Ça t'étonne pas, toi, que ce soit comme ça...
Ah, mais ça, moi, ça m'étonne pas du tout.
Une option
parce que...
possible pour les hommes de la mer, quoi.
Voilà, parce que c'est dans la mentalité des marins. Les marins, ils sont quand même des gens libres et un peu égalitaires, quand même. Tu vois, c'est quand même une population un peu particulière, quoi. Bon, Antoine, en tous les cas, rassure-toi du point de vue de l'existence, parce que Lucien Gouron, lui, il a réussi, mais il y a un document dont il m'a parlé l'autre jour, mais c'est incroyable, parce qu'il m'a parlé de ça, ou c'est moi qui l'ai branché là-dessus, et il est vraiment très documenté, quoi.
Ah, je l'appelle de ce pas, alors.
Ouais.
Super.
Et tu lui dis salut de ma part.
Très bien.
Kenavo.
À bientôt, Eugène. Kenavo.
Avant de prendre le large, nous allons remercier les Espagnols. Tenez-vous prêts, les enfants, le moment est venu de leur adresser notre message d'adieu. Hector, à tes canons.
Oui, patron.
Dégagez le pont pour la manœuvre.
Dégagez le pont pour la manœuvre.
Dégagez le pont pour la manœuvre.
Oui.
Oui, Lucien Gouron.
Oui.
Bah, je vous appelle de la part d'Eugène Riguidel, qui m'a conseillé de vous appeler parce que vous vous intéressez aussi à l'aventure des pirates dans l'océan Indien, notamment à Libertalia. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là ?
Bah, c'est par le plus grand des hasards, dans la passion que j'ai pour les histoires autour de la Bretagne et des marins, j'avais découvert l'histoire d'un pirate qui s'appelait Condon, ou Condon, écrit d'une autre façon, qui avait vécu à Port-Louis, et qui était marié avec quelqu'un qui était un collatéral d'un de mes ascendants dans le pays de Port-Louis et d'Île de Groix. Donc je suis parti à la recherche de cet homme dans l'océan Indien. Je suis arrivé aux Seychelles et j'ai été aux archives où j'ai rencontré deux personnes qui collectaient les contes aux îles Seychelles. Et là, tout de suite, ils m'ont fait découvrir plein d'histoires de contes et de légendes autour de trésors de pirates extraordinaires. Le fameux trésor de la Buse. Or, en m'intéressant à l'histoire de la Buse, Olivier Levasseur, qui avait été aussi pirate dans les Caraïbes, eh ben, je suis tombé sur l'affaire de Libertalia, c'est-à-dire cette république socialiste, alors utopique, dont on ne sait pas si elle a vraiment existé ou elle est seulement l'œuvre enflammé de Daniel Defoe, puisqu'il écrit une histoire de la piraterie, mais qui est passionnante parce qu'il symbolisait, enfin, pour moi, tous des rêves qu'on peut avoir étant enfant à l'île de Groix, par exemple, où toute mon enfance à l'île de Groix a été bercée par des histoires de pirates, quoi. J'ai découvert aux archives des Seychelles le fameux cryptogramme lancé donc par ce fameux Labuse, c'était son surnom, dit Olivier Levasseur, qui, lorsqu'il a été exécuté à l'île Bourbon, devenue aujourd'hui l'île de la Réunion, il lance ce parchemin et il dit « Mon trésor aura, à qui découvrira ?» quoi. Et depuis, ben, on cherche toujours à essayer de décrypter ça, parce que on pense que ce trésor, qui avait sans doute séjourné à Madagascar, à Libertalia, avec Misson, avec tous ces pirates anglo-saxons, français et bretons. On dit même qu'il y avait un breton qui s'appelait enfin Jean-Thomas Dulaya, un Nantais qui aurait appartenu très jeune à l'équipe de ces gens, quoi, là. Et moi, quand j'ai découvert l'histoire, j'étais persuadé que ça avait vraiment existé. Et en même temps aussi, ça satisfaisait chez moi ce besoin, effectivement, de renouer avec ce côté anarchiste que j'avais quand j'avais 18-20 ans. Voilà. Aujourd'hui, quand on me dit c'est une fable, je préfère ne pas le croire, quoi. Pour moi, ça existait, quoi. Libertalia, c'est pas seulement qu'une utopie.
Parce qu'au-delà de Libertalia, des historiens se sont penchés sur l'histoire de la piraterie, hein, notamment Marcus Rediker, aux États-Unis, un chercheur. Et il s'avère effectivement qu'il faut un peu réévaluer l'histoire de la piraterie avec un focus plus social et plus libertaire, effectivement aussi.
On ne bâtit pas une utopie, à mon avis, comme celle-là, sans qu'il y ait effectivement un terreau propice, j'entends, le mouvement de la piraterie en général, quoi. Moi, j'en suis persuadé, oui.
D'accord. Merci, Lucien. À bientôt.
À bientôt.
Alors, utopie ou vérité ou véritable utopie, l'histoire de Libertalia. Mais comme dit Antoine Chao et nos amis, il n'y a pas que cette histoire de Libertalia. Il y a la façon dont vivent ces pirates. On parle quand même essentiellement de l'âge d'or, hein, de la piraterie, cette piraterie de Stevenson, de Daniel Defoe, c'est-à-dire le début du 18e. Il y a une chose, hein, l'image, le marin est un homme libre, évidemment, il est là tout seul au milieu des horizons, sauf qu'il est dans un bateau. Il est dans un bateau, il n'y a rien de plus enfermant qu'un bateau. On est prisonnier dans un bateau. Et quand on est des pirates, eh ben, on est tous prisonniers du bateau à l'intérieur. Il va falloir s'organiser, il va falloir organiser la vie. Et comment on va l'organiser, la vie ? Eh bien, c'est tendu, les hommes sont là, c'est pas des enfants de cœur, ces marins-là. Donc, il va falloir trouver des relations, qui va être le chef, qui va commander. Et il y a des impératifs de discipline très stricts à bord d'un bateau. Donc, il y a communauté. Donc, c'est peut-être à partir de là qu'on peut imaginer qu'il y a eu, une fois à terre, une fois le butin acquis, comment va-t-on le partager ? Très souvent, ce sont des butins acquis sur des gens qui eux-mêmes sont des pirates qui volent d'autres pirates. Est-ce qu'il y a eu ou non la utopie ? Est-ce qu'il y a eu là des bandits de fuite ? Est-ce qu'il y a eu utopie ? Est-ce qu'il y a eu là de Marcus Rediker, pirate de tous les pays. Marcus Rediker, on vient de le dire, étant un chercheur américain qui passe sa vie sur ces histoires de pirates et leur histoire comme ancêtre, on peut dire, des rébellions socialistes.
Nicolas Norito, je m'occupe des éditions Libertalia depuis quelques années. Je suis militant anarcho-syndicaliste, également prof à Romainville dans un lycée professionnel. Alors Marcus Rediker, c'est un historien américain qui a 55 ans à peu près, qui a été le disciple de Christopher Hill, grand historien marxiste britannique, qui est le premier à s'être intéressé réellement aux pirates en tant qu'homme d'en bas, et non pas comme bandit. D'abord, Rediker s'intéresse à ce qu'il appelle l'histoire d'en bas. Donc l'histoire, elle est faite non pas par les puissants, mais par le peuple. C'est une remise en question absolue de la façon d'aborder les phénomènes historiques. C'est donc une révolution, ce qui s'inscrit dans la fameuse nouvelle histoire. Donc Rediker, élève de Christopher Hill, se dit « il faut que je m'intéresse à cette question ». Et il va passer 30 ans de sa vie, ça fait 30 ans qu'il travaille sur le monde de la mer. Et il va démontrer l'aspect absolument subversif des pirates, qui sont les meilleurs des marins, qui ont décidé de s'émanciper, de refuser le jeu capitaliste, économie mondialisée, pour vivre leur vie tout en libérant leurs frères humains, à savoir les esclaves qui étaient emmenés de l'Afrique pour participer à la construction d'économies capitalistes et productivistes. Alors le marin, c'est quoi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une attirance romantique pour le monde de la mer ? Non, absolument pas. Ce que nous ont décrit Melville ou Stevenson dans leur roman, c'est de la littérature. Lui, Rediker, va s'intéresser à l'homme, le paysan qui est obligé de quitter ses terres puisqu'il y a une politique de remembrement en Angleterre à la fin du XVIIe siècle et qui est obligé de prendre la mer, qui va travailler dans des conditions terribles pour un salaire de misère. Donc il s'intéresse aux marins. Combien y avait-il de marins au XVIIe siècle ? En quoi ont-ils participé à la grandeur de l'empire colonial britannique et donc à la naissance du capitalisme ? Et quels ont été leurs forme de résistance. Donc voilà, on a quelque chose comme 80 équipages pirates qui constituent au total plusieurs milliers d'hommes qui vont arraisonner 400 navires marchands appartenant aux Français, aux Espagnols, aux Britanniques.
et pas n'importe quel navire, les navires qui revenaient de l'Eldorado, de l'Amérique du Sud, des navires chargés d'or ou de sucre.
Pour en revenir à Libertalia, que dit Marcus Rediker sur l'existence ou pas de Libertalia ?
Libertalia, c'est supposé être une république égalitaire et libertaire pirate située au large de Madagascar à la fin du XVIIe siècle. Bon, on n'a pas retrouvé la moindre trace de ça. Donc là, on est dans le roman, ce qui pourrait accréditer la thèse d'un Daniel Defoe, auteur de ces chapitres-là.
Fred Alpi, vous êtes le traducteur des deux bouquins.
Effectivement, Libertalia, dans l'imaginaire libertaire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des modèles, même utopiques, et d'essayer de voir comment un fonctionnement collectif peut tendre vers ces modèles. Alors que Libertalia, finalement, existait ou pas, l'idée d'une communauté de vie égalitaire, libertaire, des fonctionnements non hiérarchiques, pas de différence de salaire ou très peu entre l'équipage et le capitaine, un capitaine élu, révocable à tout instant, mandaté, les décisions prises par des assemblées générales souveraines. Voilà, c'est ça qui est important. Chez les pirates, par exemple, il y a eu les premières formes de sécurité sociale. Hein, alors que bon, les marins blessés ou handicapés, amputés dans la marine marchande où ils étaient abandonnés à leur sort, les pirates, eux, constituaient des caisses de sécurité sociale avec des indemnités en fonction des blessures pour permettre une réelle solidarité. La nourriture était partagée équitablement. Enfin, c'était un vrai fonctionnement. Enfin, il n'y avait pas un fonctionnement uniforme. Mais en tout cas, il y avait toutes ces choses-là ont existé et finalement ont été les premières formes d'organisation libertaire concrète. Il faut savoir que le terme strike, grève en anglais, vient du fait de déchirer les voiles, de fendre les voiles des bateaux pour les empêcher de naviguer. Et c'était les premières formes de grève et d'action directe destinées à immobiliser le bateau, qui est pratiquement la première forme d'usine, avec des gens qui viennent, qui n'ont que leur force de travail à apporter là, qui est un lieu de conflit social permanent.
Et récupération des moyens de production. Quoi.
Et récupération des moyens de production, tout simplement, lutte des classes sur le bateau ou contre les armateurs. C'est-à-dire que bon, le pirate, c'est un stade ultime d'une rébellion. Mais déjà, le marin révolté, c'est lui qui va pratiquement être à la base de la naissance des premiers mouvements ouvriers.
Début 18e siècle, 100 ans avant les révolutions françaises, les principes du libéralisme étaient déjà mis en pratique par des communautés pirates. L'une d'elles, celle du capitaine Mission, faillit créer un précédent que d'autres auraient pu suivre. L'humanité aurait pu se libérer de l'impasse mortelle dans laquelle elle s'est enfermée. Mer des Caraïbes, début de l'histoire. Un navire de guerre français surnommé La Victoire. Une bataille fait rage, le capitaine est tué. Dès lors tout l'équipage, à l'unanimité, prend mission pour capitaine. Un pavillon fut hissé, non pas noir, mais blanc, gravé du mot liberté. La République des mers venait d'être lancée.
Pirate, sans race, sans scrupule, tu pilles et t'encules.
Années plus tard, après de nombreuses victoires, Mission s'établit sur la côte de Madagascar. Une base terrestre, libre colonie, la Libertatie. Et 300 hommes, des pirates français, anglais, des marins renégats, des esclaves libérés. Sur l'île rouge, ils ont conçu des lois de paix et de démocratie. La peine capitale et l'esclavage de proscrit. Une totale liberté d'opinion religieuse était garantie.
Allô, bonsoir, je voulais parler à Michel, s'il est là, c'est Antoine Chao de l'émission Là-bas si j'y suis.
Alors, Là-bas si j'y suis.
fille, c'est sympa. Sauf que vous êtes chez monsieur et madame Guguin, en Bretagne.
Ah, je me trompe alors. On cherchait un chanteur breton qui s'appelle Michel Tonnerre.
Tu connais Michel Tonnerre, le chanteur breton. Ouais. Non, c'est une émission de radio en fait qui cherche Michel Tonnerre, mais sauf qu'on est chez Guguin.
Bah ouais, bon, bah je suis désolé, je vais retaper.
Non, mais soyez pas désolé. Mais c'est pas mon voisin non plus, non, j'aurais pu aller le chercher.
Alors,
mais...
J'en profite pour vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les pirates avaient comme ça une geste libertaire?
Une geste libertaire, oui. Les pirates? Non, bah voilà, je vous réponds très simplement. Les pirates, c'est sympa dans les films, mais les vraies histoires de pirates, c'était quand même pas décent. Donc c'était pas des gars bien, et la preuve aujourd'hui, il y a encore des gens qui s'en inspirent pour piller des bateaux, kidnapper des gens et demander des rançons. Donc si on va par là, les pirates, c'est pas des gens gentils.
Est-ce qu'ils se rebellaient contre une société
Je suis pas sûre. Ils se rebellaient pour eux, pour avoir de la thune, mais certainement pas contre une société, je crois pas. Certainement pas à cette époque-là.
Bon, bah, je vous remercie. Voilà.
Bah, de rien. Bonne émission.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. À bientôt.
Alerte, un navire à tribord.
Je m'appelle Samuel Sanchez, je suis historien à l'université Paris 7 Diderot. Et je travaille sur les sociétés de l'océan Indien occidental en particulier, à l'époque moderne et contemporaine.
Alors la question se pose de savoir si Libertalia a existé, vraiment. Oui, donc il y a pu y avoir comme ça une geste libertaire chez les pirates à cette époque-là?
Oui, alors il faut distinguer plusieurs choses. D'une part, dans le comportement général de nombreux pirates, on a un désir de revanche un peu sociale, de s'affranchir des règles très dures de la marine de cette époque-là. On a des textes qui attestent un petit peu de ça dans des prises de bateaux, une sorte de dispute entre le capitaine du navire marchand et le capitaine pirate, qui s'appelle le capitaine Bellamy. Voilà, alors Defoe, tome 2.
Ça, c'est le fameux Daniel Defoe.
Voilà.
Histoire générale des plus fameux pirates, avec un Y.
Voilà. Pirate. Ça fait plus authentique.
Soyez maudits! Vous n'êtes qu'un sournois godelureau, un lâche, de même que tous ceux qui s'abaissent à être gouvernés par les lois que les riches ont rédigées pour leur propre sécurité, car ces couards n'ont aucun courage, sinon celui de défendre ce qu'ils ont obtenu par leur piloterie. Mais soyez maudits, et que soit maudite cette bande de vauriens rusés, et vous aussi qui les servez, n'êtes qu'un ramassis de stupides poules mouillées. Ah, ils nous calomnient, les fripouilles. Alors qu'il n'y a qu'une différence entre eux et nous. Ils volent le pauvre sous couvert de la loi, en vérité. Et nous pillons le riche sous la protection de notre seul courage. Ne feriez-vous pas mieux de devenir l'un des nôtres, plutôt que de lécher le cul de ces vilains pour avoir un travail?
Voilà le genre d'expression qui, pour moi, manifeste un certain goût de la liberté et un refus de l'autorité telle qu'elle s'exprimait dans la marine de l'époque, en fait. Et par ailleurs, on a une expérience assez unique, qui est ce qui est connu sous le nom de Libertalia, en fait. Une expérience dont on n'est pas tout à fait sûr, mais qui aurait eu lieu dans le nord de Madagascar, donc à la fin du XVIIe siècle, fondée par deux pirates, un gentilhomme provençal et un moine dominicain napolitain. Donc Misson et Caraccioli, qui étaient deux capitaines pirates qui auraient fondé cette petite république, une société sans esclavage, une société égalitaire qui essayait d'entretenir des relations cordiales avec les voisins malgaches. Et donc voilà, on a cette expérience-là qui est mise en avant, disons, comme une expérience libertaire véritable. Et si elle a vraiment existé, c'est probable qu'elle ait existé. Et sans doute, dans ce cas, c'est vraiment une expérience républicaine avec des fondements ancrés dans une idéologie un peu des Lumières, en quelque sorte. On n'a pas d'archives véritables là-dessus, et la seule source dont on dispose, c'est celle de Defoe, enfin de Defoe, du capitaine Johnson. Alors peut-être qu'un jour, on retrouvera des documents qui pourront attester véritablement de l'existence de ce lieu. Après, l'objet lui-même, il existe en tant qu'élément de la mémoire maritime, de la mémoire libertaire aussi, qui s'empare de cet objet historique, pourrait-on dire, pour créer une mythologie, en quelque sorte. Donc là, on se situe plus dans l'histoire, mais dans une mémoire des mouvements de libération, en quelque sorte. mais qui est, à mon avis, distincte de la majorité de la piraterie. Voilà, c'est ce que je dirais là-dessus.
Utopie Pirate, c'était un reportage d'Antoine Chao, à lire Pirate de tous les pays, l'âge de la piraterie atlantique, de 1716 à 1726, de Marcus Rediker aux éditions Libertalia. Bastion Pirate, petite histoire libertaire de la piraterie, du collectif Do or Die, à commander ou à télécharger sur le site des éditions Aden. Demain, à la fête de l'humanité, que se passera-t-il à 15h? Eh bien, la Bastigisrice, si j'y suis, sera en direct depuis la fête de l'Huma avec Frédéric Lordon, l'économiste hétérodoxe, s'il vous plaît, Frédéric Lordon, qui répondra à nos questions et aux questions des AMG, du public de la Bastigisrice. Vous nous retrouverez dans le parc de la Courneuve, au stand de Radio France, avenue Jean Jaurès, dans cette fête. Et le plan, c'est sur le E5. Et puis ensuite, on se retrouvera à 18h avec les Mutins de Pangée. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette utopie pirate, ou bien sur le site là-bas.org. Et sur chacun de ces sites, vous pouvez nous écrire des commentaires et vos appréciations à la technique aujourd'hui. Sandrine Laurent et Philippe Duclos, c'est Bertrand Chometon et Franck Aderer qui ont réalisé cette émission, Modeste Génial, assisté de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch quand elle lui attend au message sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Les horaires de bus, de train ou de métro en temps réel, les transports accessibles pour tous, les bons plans covoiturage, ça vous dit ? Bougez autrement avec le numérique. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine européenne de la mobilité. Rendez-vous sur bougezautrement.gouv.fr et découvrez notre guide des applications mobiles et sites internet pour vous déplacer malin.
Ceci est un message du ministère du Développement Durable et de l'ADEME.
Laurent Terzieff, grand maître du théâtre, a marqué la création contemporaine.
Le théâtre a un effet cathartique et sublimant. Il élargit notre perception et notre conscience des choses.
Deux CD d'entretiens inédits au plus près de ce monstre sacré. Laurent Terzieff, du visible à l'invisible. Collection Les Grandes Heures Radio France INA, disponible sur kiosque.radiofrance.fr.
Ne loupez pas les entretiens avec Terzieff, c'est magnifique. On se retrouve donc demain à 15h pour la Bastigisrice en direct et en public de la fête de l'Huma. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
La mort de Georges Filliou, aujourd'hui à l'âge de 82 ans, c'était l'ancien ministre de la Communication de François Mitterrand. Il avait notamment été l'artisan de la libération des ondes en 82 en supprimant le monopole de l'État et donc en autorisant les radios libres. Il était aussi à l'origine de la création de plusieurs chaînes de télé, dont Canal+. Pendant que les combats se poursuivent à Sirte, Nicolas Sarkozy et David Cameron poursuivent leur visite en Libye. Ils sont attendus maintenant à Benghazi, le fief de la rébellion. Ce matin à Tripoli, le chef de l'État et le Premier ministre britannique ont visité un hôpital, puis ils se sont exprimés. Nicolas Sarkozy a justifié l'aide de la France. « Il n'y a aucun calcul, dit-il, nous l'avons fait parce que c'était juste », a dit le chef de l'État. Nicolas Sarkozy qui souhaite également que Muammar Kadhafi soit arrêté et jugé par une juridiction internationale. « C'est un danger », dit le chef de l'État. David Cameron lui promet d'aider à le retrouver. En écho à cette visite libyenne en Syrie, un groupe d'opposants a décidé de se structurer. Il annonce aujourd'hui la formation d'un conseil national afin de présenter un front uni contre le régime de Bachar el-Assad. Benjamin Netanyahou sera jeudi prochain à New York. Le Premier ministre israélien se rendra à la session annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU. Il dit aujourd'hui souhaiter les objections de son pays. Il s'était présenté les objections de son pays face à la demande d'adhésion d'un État palestinien. J'y arrive. Cela fera 2 ans demain que 4 Français sont retenus en otage au Niger. Ils ont été enlevés le 16 septembre dernier par Al-Qaïda au Maghreb islamique alors qu'ils travaillaient sur le site d'extraction d'uranium d'Areva. Un an après, on sait qu'ils sont en vie. Le Quai d'Orsay affirme aujourd'hui mettre tout en œuvre pour leur libération. Le procès de l'incendie d'un immeuble vétuste boulevard Vincent Auriol en 2005 à Paris, il s'est ouvert cet après-midi. Le procès qui avait débuté en mars avait en fait été reporté en raison d'une organisation chaotique. Le MRAP décide de se pourvoir en cassation. L'association antiracisme n'a pas apprécié la décision de la Cour d'appel de Paris cet après-midi pour Brice Hortefeux. L'ancien ministre de l'Intérieur était poursuivi pour injure raciale lors d'une conversation avec un militant UMP d'origine maghrébine. Il a été relaxé sur une question de droit, en fait, mais sur le fond, la Cour retient quand même que ses propos étaient méprisants et outrageants. L'Afrique du Sud a décidé de rouvrir l'enquête sur une affaire de corruption autour d'un contrat d'armement datant de 1999. À l'époque, une filiale sud-africaine du fabricant français Thomson était impliquée. Un ancien conseiller de Jacob Zuma, le président, avait lui-même été condamné à de la prison. Roman Polanski se rendra fin septembre en Suisse. Le réalisateur franco-polonais y va pour recevoir sa récompense de 2009. Récompense qui lui avait échappé. Il avait été arrêté à l'aéroport de Zurich à la demande de la justice américaine qui le poursuit depuis 1978 pour un crime à caractère sexuel. Enfin, une victoire contre la Grèce cet après-midi serait un grand pas vers la qualification pour les JO de Londres l'an prochain. C'est dire l'importance de l'enjeu du match que va disputer dans une heure l'équipe de France de basket. Les coéquipiers de Tony Parker affrontent donc les Grecs pour une place en demi-finale de l'Euro de basket. Et ça se passera en Lituanie. Vous écoutez France Inter, il est 16h04.
Les Affranchis.
Bonjour.
Isabelle Giordano.
Je vous donne rendez-vous demain. Toute l'équipe des Affranchis est prête pour recevoir Claude Rich dans un face-à-face au théâtre. Et nous recevrons également le pédopsychiatre Aldo Naouri.
Pour assister à l'émission, rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 10h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Les Affranchis, tous les jours sur France Inter à partir de 11h.
France Inter.
La différence.
Tout de suite, Carrefour de l'Odéon. Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Le festival de Besançon, Franche-Comté, commence à être grand maintenant. C'est le 64e festival international de musique et il y a le concours qui va avec. C'est le 52e concours international de jeunes chefs d'orchestre qui a révélé entre autres Seiji Ozawa, qu'on ne présente plus quand on aime la musique, Michel Plasson de même et plein d'autres. Donc vraiment un moment très important. À partir de demain jusqu'au 1er octobre, Besançon va être sous les feux des projecteurs et évidemment dans la ligne de mire des micros. On va entendre tout de suite un extrait de la boutique fantasque de Rossini revue par Respighi. Respighi a retouché quelques péchés de vieillesse de Rossini et s'est dirigé, ce petit morceau-là, par Sir Andrew Davis. Andrew Davis, artiste associé du Festival de Besançon, qui est là pour la deuxième fois. Il préside le concours de jeunes chefs. Il dit que c'est un honneur, une responsabilité écrasante, bien sûr. Cet Anglais bien barbu et bon vivant apparemment se rend compte que décider du destin de jeunes chefs d'orchestre sélectionnés parmi plus de 200, et on en garde seulement 20 qui viennent à Besançon, bah c'est une grosse responsabilité, c'est quelque chose de très important. Quoi qu'il en soit, on va le juger lui, hein, le président du jury, il faut toujours l'entendre pour savoir s'il est bon. Là, on le sait, Sir Andrew Davis dirige maintenant cette tarentelle tirée de la boutique Fantasque. Tarentelle, tirée du ballet composé par Respighi, Autorino Respighi, la boutique fantasque d'après des bribes de musique écrites par Rossini quand il a arrêté sa vraie carrière. Et nous avons pu entendre l'Orchestre Symphonique de Toronto dirigé par Andrew Davis. Sir Andrew Davis qui est directeur justement de l'Orchestre de Toronto, chef lauréat comme on dit, et puis aussi du BBC Symphony Orchestra et directeur depuis l'an 2000 de l'Opéra de Chicago. Donc c'est du lourd comme on dit, et pour son soutien à la musique britannique, il a été nommé commandeur de l'Empire britannique en 1992 déjà, puis il a reçu plein de distinctions. On va entendre cette musique qu'il défend aussi avec beaucoup de ferveur, cette musique anglaise.